Adalbert est-il un saint national, et notamment pour les Tchèques, pour qui il est connu sous le nom de Wojtek, ou bien un saint européen? C'est la question que s'est posée l'historienne Geneviève Burer-Thiry pour un colloque sur la question des saints et de leur culte en Europe centrale qui a donné lieu à une publication en décembre dernier. Pour Radio Prague, la médiéviste est revenue sur les tribulations d'Adalbert et a commencé par rappeler le contexte dans lequel il naît dans la Bohême du milieu du Xe siècle, un entretien mené par Pierre Maignan.
Chapitre de l'histoire.
Wojtek, il est né à un moment très particulier de cette histoire. Il est né vers 956-957, c'est-à-dire immédiatement après la grande bataille du Lechfeld, qui est la dernière grande bataille contre les Hongrois. En clair, il est né dans une Europe centrale, pour l'appeler comme ça, qui est en train de se stabiliser, parce que les Hongrois, qui ont commis beaucoup de déprédations dans la région, vont se stabiliser et s'installer dans la plaine de Pannonie. De ce fait, les circulations vont être beaucoup plus faciles dans cette région-là. Et la Bohême, qui certes est aux marges de l'Empire, va devenir une sorte de carrefour d'influence et aussi de route, puisqu'on va devoir traverser la Bohême pour aller, par exemple, dans le sud de la Pologne, qui est aussi un état en construction, etc.
Alors, la Bohême, c'est aussi un territoire sur lequel il peut y avoir des rivalités entre plusieurs familles. Il y a les Przemyslides, la famille ducale, et puis il y a les Slavnikides, dont est issu Wojtek. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces conflits qu'il peut y avoir entre ces familles? Vous nous parlez d'une vision traditionnelle qui parle de cette rivalité entre ces familles, et finalement d'une vision un peu plus moderne où les Slavnikides seraient vus comme les dépositaires du pouvoir Przemyslide dans la partie est de la Bohême.
Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans des sociétés qui sont des sociétés où la compétition entre les familles est très importante. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des rivalités entre les grands groupes familiaux, mais cette rivalité n'exclut pas à certains moments la coopération. C'est ça que nous appelons une société de compétition, et c'est très spécifique de toutes ces sociétés du haut Moyen-Âge. On a le sentiment, dans cette fin de Xe siècle, que le pouvoir ducal, Przemyslide, essaye de construire une sorte de principauté, même si elle est très contrôlée par l'Empire ottonien, et que à l'intérieur de cette principauté, en effet, leurs principaux concurrents, on va dire, sont les Slavnikides. Alors traditionnellement, on expliquait que les Slavnikides voulaient en quelque sorte prendre le pouvoir pour eux. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression d'être dans une configuration où les Slavnikides seraient à l'origine des dépositaires du pouvoir ducal. Ils auraient été dans un premier temps, en effet, les représentants du duc dans la partie orientale de la Bohême, et puis auraient pris petit à petit de plus en plus d'autonomie et en seraient venus à concurrencer le pouvoir ducal.
Et comment Wojtek devient-il évêque de Prague sous le nom d'Adalbert? Et qu'est-ce que ça représente finalement qu'un Tchèque devienne évêque?
C'est en effet, Adalbert est le premier évêque autochtone de Prague. Il faut d'abord savoir que Prague est devenue un évêché indépendant seulement en 973, c'est-à-dire extrêmement tard, puisque on estime que la région est christianisée depuis, on va dire, les premiers chrétiens, au moins un siècle avant, et donc 50 ans de christianisation véritablement profonde. Et finalement, en 973, c'est Othon Ier et le pape ont accordé à Prague la possibilité d'être un diocèse indépendant. Alors le premier évêque en 973 est un Saxon, et le deuxième évêque, choisi à l'évidence par l'empereur Othon II, Adalbert devra aller chercher l'investiture qui est donnée à l'époque par l'empereur jusqu'en Italie où se trouve l'empereur en 983. Et bien entendu, c'est très important que ce soit un ecclésiastique autochtone qui soit choisi comme évêque de Prague. C'est difficile de savoir en revanche quel a été le rôle du duc Przemyslide dans cette histoire. Est-ce qu'il a été tellement content de voir un Slavnikide occuper le siège de Prague? Ça, c'est pas très évident, et on peut penser que c'est aussi à l'origine des difficultés qu'Adalbert va rencontrer dans l'exercice de son ministère.
Alors quelles sont justement ces difficultés qu'il rencontre et qu'est-ce qu'elle nous dit, ces difficultés peut-être du processus de christianisation de ces pays tchèques ?
Adalbert s'est trouvé rapidement confronté à une sorte d'incompréhension entre le message qu'il voulait porter et ses ouailles qui ne l'écoutent pas du tout, qui ne comprennent sans doute pas très bien ce qu'il dit, c'est-à-dire il leur reproche de ne pas se comporter comme des chrétiens. Adalbert, il a été élevé dans l'église de l'Empire, il a été élevé une grande partie de sa vie à Magdebourg, au contact d'ecclésiastiques qui vivent dans des sociétés christianisées depuis plus longtemps aussi. Et il estime que son devoir en tant que chef du troupeau, c'est d'obliger ses fidèles à respecter, par exemple, le calendrier chrétien, à ne pas tenir le marché, de marcher le dimanche, à respecter les règles du mariage, à ne pas se faire justice eux-mêmes. Et tout ça, c'est un discours qui, manifestement, n'est pas facilement entendu.
Cet épiscopat se passe mal et Adalbert est en exil, il va à Rome pendant 4 ans, il est dans un monastère, il retourne finalement en Bohême, on sait qu'il a peut-être été en Hongrie baptisé Étienne et finalement il retourne à nouveau à Rome et puis ensuite il y a un autre voyage par la Francie. Qu'est-ce que ça nous dit cette immense mobilité, cette grande mobilité à travers l'Europe d'Adalbert ?
D'abord que les ecclésiastiques sont sans doute en Europe de cette époque, du Xe siècle, de la fin du Xe siècle, ceux qui se circulent le plus. Ils circulent parce qu'ils sont missionnaires, ils circulent parce qu'ils font des pèlerinages, mais ils ne sont pas les seuls à circuler. On a l'image d'un Moyen-Âge très statique, d'une société très statique, alors qu'en réalité, c'est une société où les gens circulent beaucoup, je dirais au moins pour les élites. Et ce qui est intéressant dans le cas d'Adalbert, c'est de voir qu'il circule à l'échelle de toute l'Europe chrétienne, bien au-delà du simple empire. Il va en Francie, sur le tombeau de Saint-Martin de Tours, et puis bien sûr, il va mener ce voyage missionnaire vers l'Europe orientale, au-delà de la Vistule, en s'appuyant sur le duc des Polonais, Boleslav le Vaillant.
Il perd la vie lors de cette mission. Il y a une incompréhension visiblement entre les païens et puis ces missionnaires chrétiens. Dès lors qu'il est mort, son corps va devenir un enjeu important. Vous pouvez nous parler un petit peu de cet enjeu des reliques d'Adalbert.
Alors ça, c'est évidemment extrêmement important. Boleslav le Vaillant, qui a soutenu sa mission, est très vite averti à la fois de l'échec de cette mission et du martyre d'Adalbert, qui est donc assez rapidement mis à mort par des païens. Des païens qui, en réalité, voient bien que toute forme de christianisation est une forme de soumission aux autorités chrétiennes qui sont de l'autre côté du fleuve. Ça, ils ont bien compris ça, comme les Saxons l'avaient compris vis-à-vis de Charlemagne. Donc c'est toujours ça un peu la même histoire. L'objectif de Boleslav, c'est en effet de récupérer les reliques d'Adalbert, qui se trouve être en fait aussi le premier martyr, très célèbre de ce qu'on appelle la nouvelle chrétienté, c'est-à-dire des pays d'Europe centrale et orientale. Il va récupérer les reliques d'Adalbert, qui se trouve aussi être quand même un ami proche de l'empereur Othon III, et il les récupère pour les ensevelir à Gniezno, c'est-à-dire au centre de son pouvoir. C'est un moyen pour le duc des Polonais de légitimer son pouvoir par des moyens, le sacralisant par des moyens chrétiens.
Et alors qu'il a été assez malheureux finalement dans sa mission épiscopale en Bohême, alors que sa famille a été assassinée en Bohême parmi les Przemyslides, ces mêmes Przemyslides vont essayer aussi de s'approprier la mémoire de Saint Adalbert. C'est vraiment un enjeu de légitimation comme ça d'avoir un saint, les reliques de ce saint sur son territoire.
Apparemment, c'est quelque chose de très important, même si ça ne vient pas tout de suite. Ce qu'on remarque, c'est que dès l'an 1000, vers 1001, l'empereur réussit à récupérer une partie des reliques d'Adalbert et il va les distribuer un peu partout dans l'Empire. Il va en donner à Aix-la-Chapelle, il va en donner à Rome, il va en donner à Esztergom, en Hongrie. mais il ne va pas en donner aux Pragois. Néanmoins, on voit bien que les Pragois considèrent qu'il serait normal qu'ils aient eux aussi accès, en quelque sorte, aux reliques d'Adalbert. Et puisque personne ne veut leur en donner, eh bien, d'une certaine manière, ils vont aller les chercher eux-mêmes, par la force, en profitant de l'affaiblissement de la dynastie polonaise des Piastes dans les années 1030. Et donc, en 1039, en fait, les armées de Bratislava et de l'évêque Séverin envahissent la ville de Gniezno, prennent d'assaut la cathédrale et essayent de s'emparer des reliques d'Adalbert. Et bien sûr, parce que là, tout ça, on le connaît aussi par une littérature qui est une littérature hagiographique, hein, c'est-à-dire qui raconte la vie des saints. Évidemment, Adalbert ne veut pas bouger, comme souvent, hein, quand on vole des reliques, si le saint n'est pas d'accord, il ne se laisse pas emporter. Mmh. Et donc là, impossible d'ouvrir le tombeau, tous ceux qui cherchent à l'ouvrir de force sont paralysés, et finalement, Séverin a l'évêque de Prague, donc, a une vision dans la nuit. Il voit Adalbert qui lui dit « Bon, si vous voulez vraiment me récupérer, alors il va falloir accepter les lois chrétiennes, enfin accepter les lois chrétiennes que je voulais mettre en place. » Et donc le duc, l'évêque et tous les soldats qui sont là vont prêter serment sur les reliques d'Adalbert de réformer la société, d'interdire les tavernes le dimanche, les concubinages multiples et que sais-je encore. Moyennant quoi, Adalbert va se laisser emporter et ils vont l'ensevelir dans la cathédrale de Prague. Sauf que les Polonais ont toujours considéré que, en réalité, les Pragois n'avaient pas volé les bonnes reliques et que les reliques qu'ils ont ne sont pas celles d'Adalbert. Donc, si vous voulez, on est aujourd'hui... Alors, aujourd'hui, quand on va dans la cathédrale de Prague, il y a une petite chapelle qui est dédiée à Saint Adalbert. Elle est au sud de la chapelle axiale, au fond de l'abside. C'est pas très impressionnant, il faut vraiment savoir qu'il est là, il faut vraiment aller le chercher, alors que dans la cathédrale de Gniezno, il a un énorme tombeau baroque en argent et on peut pas le rater. Et aujourd'hui, il y a donc notamment deux crânes de Saint Adalbert, un à Prague et un à Gniezno, et chacun accusant l'autre d'avoir pas le bon crâne, d'avoir un crâne falsifié.
Geneviève Bührer-Thierry, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions sur Radio Prague.
Merci à vous.